à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter la légende de Mélusine. On dit qu'elle provient de par chez moi, du Dauphiné, mais dans certains textes, j'ai vu qu'elle pouvait provenir de Vendée, mais aussi peut-être de Haute-Loire. Bon, en fait, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une légende régionale, mais on ne sait pas de quelle région elle provient. Voilà. C'est une légende assez connue, mais j'aimerais vous la raconter à ma manière parce que si on s'y arrête un peu, il y a quand même des choses très très surprenantes dans cette histoire. Alors, ne m'en voulez pas si parfois, dans le texte, je vais ouvrir quelques petites parenthèses. Voici la légende de Mélusine. Le roi Elinas d'Albanie rencontre une belle inconnue au bord d'une fontaine et elle accepte de l'épouser pourvu qu'il lui promette de ne pas la voir pendant ses couches. Bon, stop, première pause, tout de suite. Un homme rencontre une femme devant une fontaine et paf, tout de suite, il lui demande de l'épouser et paf, tout de suite, elle est d'accord. Bah dis donc, ça allait très très vite à cette époque, hein? Ils perdaient pas de temps? C'est quand même pas aussi facile de nos jours, hein? Et encore, on a toutes les applications de rencontre. Mais en fait, au lieu d'une application de rencontre, ce qu'il nous faudrait, c'est une fontaine? Voilà, c'est ça en fait. Oui, bon, bref, je disais. Son épouse Précine, bon, deuxième parenthèse, on voit bien dans son prénom que c'était une femme pressée, très certainement pressée de trouver un mari. Oui, voilà, ça c'était pour le petit point psychologie de comptoir. Donc, je continue. Son épouse Précine met bientôt au monde trois filles, Mélusine, Méliore et Palestine. Bon, alors niveau prénom, c'est sûr que si elle s'était appelée Elisabeth, Églantine et Julie, forcément ça aurait eu moins de panache, hein, mais enfin bon. Mais Elinas ne peut s'empêcher d'entrer alors qu'elle les baigne. Aussitôt, Précine s'enfuit avec les bébés et gagne l'île d'Avalon. Ayant grandi, les trois sœurs apprennent la faute de leur père. Elles décident de le punir en l'enfermant sous une montagne. Bon, oui, apparemment, les montagnes se soulèvent et en plus, on peut mettre des gens en dessous. Précine, qui n'avait sans doute pas oublié Elinas, ne peut rien changer à leurs gestes, mais furieuse, elle punit à son tour ses filles. Méliore sera condamnée à garder un épervier dans un château d'Arménie. Oui, niveau punition, c'est un petit peu autre chose qu'aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, vous allez priver votre fille de téléphone portable pendant une semaine ou d'ordinateur. Bon, bah à l'époque, on était condamnés à garder des éperviers. Ouais, c'était vraiment une autre époque, hein, mais bon. Palestine sera enfermée dans le mont Canigou avec le trésor de son père, et Mélusine se transformera tous les samedis en serpente, du nombril jusqu'aux pieds, et ne pourra échapper à cette malédiction qu'en épousant un homme qui accepte de ne point la voir en cette situation. Oui, bon, autrement dit, elle est transformée en mi-femme, mi-sardine. Raymondin, dont le père, le comte de Forez, avait lui aussi rencontré une fée au bord d'une fontaine, est élevé chez son oncle, le comte de Poitiers. Hélas, Raymondin le tue accidentellement au cours d'une chasse au sanglier. Donc là, je traduis, hein, si vous n'avez pas bien compris. On est en train de nous dire que Raymondin, lors d'une chasse, a confondu son oncle avec un sanglier. On s'est à se demander quand même s'il n'avait pas un petit peu des problèmes de vue. Mais bon. Raymondin, éperdu de douleur, erre à l'aventure à travers la forêt de Coulombiers. C'est ainsi qu'il parvient à une fontaine où se tenaient trois dames de grand pouvoir. Tout à sa peine, il ne les remarque pas, mais Mélusine quitte ses compagnes, vient vers lui et arrête son cheval. Il est immédiatement ébloui par sa beauté. Elle l'appelle par son nom et lui promet bonheur et prospérité s'il l'épouse. Il devra seulement ne jamais chercher à savoir ni révéler à quiconque où elle va et ce qu'elle fait le samedi. C'est ainsi que Raymondin va devenir le plus puissant seigneur du Poitou. Les noces sont somptueusement célébrées. Près de la fontaine où ils se sont rencontrés, Mélusine édifie le château de Lusignan et elle donne naissance à 10 fils. Ouais, ils n'ont pas chômé quand même, hein. dont les 8 premiers sont porteurs d'une tare physique. Pas de bol. Mais aucun nuage ne vient pour autant ternir le bonheur et la prospérité du couple. Jusqu'au jour où le frère de Raymondin insinue des choses sur les activités de Mélusine le samedi. Raymondin, bouleversé, ne peut s'empêcher de rejoindre le bas de la tour où elle s'est enfermée. De son épée, il perce un trou dans la porte, il découvre sa femme prenant son bain, jusqu'à la taille, blanche comme la neige sur la branche, bien faite et gracieuse, le visage frais et lisse. Certes, on ne vit jamais plus belle femme. Mais son corps se termine par une queue de serpent énorme et horrible. Bon, alors là, faut quand même se mettre à la place de Raymondin. Le mec est persuadé que sa femme est en train de le tromper avec son voisin de palier tous les samedis. Et en fait, au lieu de ça, il découvre que sa femme est mi-femme, mi-sardine. Ou mi-femme, mi-dorade. Enfin, mi-femme, mi-poisson. Putain, ça fait un choc hein, quand même, hein. C'est pas rien. Le pauvre homme, pris de frayeur, se signe. Mais très vite, il rebouche le trou qu'il avait fait dans la porte. Il retourne auprès de son frère et c'est contre lui qu'il rejette sa fureur. Il déclare Mélusine irréprochable et le met à la porte du château. Mélusine, de son côté, feint de ne s'être aperçue de rien et la vie continue comme avant. Jusqu'au jour où un de leurs fils, Geoffroy la Grande Dent, incendie sauvagement l'abbaye de Maillezé avec les moines qu'avait rejoint son frère Fromont. Raymondin, horrifié, voilà le signe du caractère diabolique de sa femme et il ne peut s'empêcher de la traiter en public de serpente. C'en était trop, le serment était rompu. Mélusine saute par la fenêtre, elle redevient serpente et s'envole. Attendez, mais Mélusine, elle n'est pas mi-femme, mi-sardine ? Et là, on nous dit qu'elle s'envole par la fenêtre ? Attendez, mais alors, parce que c'est quoi en fait ? Elle est tripartite ? Mi-femme, mi-poisson, mi-oiseau ? Ou alors un poisson avec des ailes ? Un saumon avec des ailes ? Ouais, un thon avec des petites ailes, quoi. Ouais, c'est bizarre cette histoire-là quand même, hein ? Elle fait 3 fois le tour de la forteresse, poussant à chaque tour un cri prodigieux, un cri étrange, douloureux et pitoyable. Raymondin ne l'a jamais revue. Mais on dit qu'elle revint, la nuit, allaiter ses 2 derniers fils qui n'étaient pas sevrés. Et qu'elle se manifeste en criant chaque fois que la mort va toucher sa descendance ou que son château s'apprête à changer d'occupant. Eh ben, ils n'avaient pas des vies comme les nôtres à l'époque.
Stars fell on Alabama
and stars.
Il y a une autre légende que j'aimerais vous raconter, c'est celle de Tristan et Iseut. Alors, on ne reviendra pas sur le fait que c'est une très belle histoire d'amour, mais quand même, si on regarde un peu dans les détails, il y a des choses un petit peu bizarres. Voici donc la légende de Tristan et Iseut. Tout commence lorsque Rivalen, roi de Lounois, un petit royaume d'Écosse, tombe amoureux de Blanchefleur, la sœur du roi Marc, et parvient à la séduire. La jeune fille, enceinte, s'enfuit avec son amant qui l'épouse une fois de retour dans son pays. Hélas, Rivalen est tuée peu de temps après, assassinée par l'un de ses vassaux. Lorsqu'elle apprend la mort de son époux, Blanchefleur meurt de chagrin en donnant naissance à un petit garçon que l'on appelle Tristan en raison des circonstances tragiques de sa venue au monde. Tristan est recueilli par Roald, puis par un chevalier du nom de Gouvernail dont il devient l'écuyer. Il est ensuite enlevé par des marchands qu'il abandonne en Cornouailles. Là, ses nombreux talents lui attirent l'attention du roi Marc avant même que son identité ne soit révélée. Elle sera dévoilée peu de temps après lorsque Gouvernail, à la recherche de son protégé, finit par arriver en Cornouailles et reconnaît Tristan. À cette époque, le royaume de Cornouailles, en Armorique, est assujetti à une ancienne coutume. À cause d'une défaite, le royaume doit chaque année livrer un tribut de 300 jeunes gens à un géant d'Irlande nommé le Morholt, une créature sanguinaire et sauvage, comparable à un ogre. Accessoirement, il se trouve que le Morholt est l'oncle d'Iseult. Bon, alors là, en fait, c'est un peu comme si on t'apprend que ta mère, c'est la sorcière d'Hansel et Gretel. Tu vois, là, tu te dis qu'au niveau des filiations, c'est un peu la mauvaise pioche. Et puis t'imagines les repas de Noël quand ton oncle, c'est un ogre? Ah bah là, au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas de reste, tu repars pas chez toi avec 12 tupperwares. Hein. Alors là, au moins, t'es tranquille. Bon. Souhaitant en finir avec cette terrible tradition, Tristan décide de défier le monstre alors que tout le monde refuse lâchement de l'affronter. Mais enfin bon, faut quand même pas leur en vouloir, hein. On parle d'un monstre. Hein. Entre rester chez soi, regarder Netflix et affronter un monstre, moi personnellement j'ai choisi. Hein. Le combat est long et difficile car le géant a une force surhumaine, mais Tristan, dont les qualités de guerrier sont exceptionnelles, finit par triompher. Il est cependant gravement blessé par l'épée empoisonnée de son adversaire. Nul ne peut le guérir et sa plaie dégage une telle puanteur que personne ne veut plus s'approcher de lui. Par dignité, il décide alors de partir. Il se fait déposer avec ses armes et sa harpe sur une barque à la dérive et se laisse emporter par la mer. Il s'éloigne au gré des vagues vers son destin, la mort probablement, ou une miraculeuse guérison. Bon, là quand même, plus un bon point pour le mec. Tout le monde le rejette parce qu'il pue, en fait, hein, c'est ça. Alors qu'il vient de libérer tout un royaume, mais le mec est courageux et digne aussi, parce qu'il décide d'aller mourir peinard tout seul dans sa barque avec sa boîte de petit beurre et son thermos, quoi. Non, là, franchement, c'est plutôt fair play. La barque arrive en Irlande. La reine du pays entend Tristan jouer de la harpe et est émue par sa complainte. Elle lui promet de le soigner avec l'aide de sa fille Iseult, à condition qu'il enseigne son art à la jeune fille. Tristan, qui par précaution cache sa véritable identité et se fait appeler Tantris, accepte le marché. Iseult la blonde, comme on l'appelle, et sa mère, toutes deux excellentes guérisseuses, vont donc le sauver grâce à des herbes médicinales dont elles connaissent les secrets. Une fois remis, Tristan rentre chez lui. Peu de temps après, le roi Marc, qui n'a pas d'héritier, est pressé par ses barons de se marier. Il déclare alors qu'il épousera la plus belle femme du monde, celle dont un cheveu d'or lui a été apporté le matin même par des hirondelles. Tristan se souvient alors d'Iseult la Blonde et accepte de retourner en Irlande pour demander sa main au nom de son oncle. Lors de ce second voyage, Tristan a à peine le temps de débarquer qu'il doit à nouveau combattre un monstre, un terrible dragon qui ravage le pays. Oui, alors là, il a quand même vraiment pas de chance, hein, le mec, mais enfin bon. Une fois de plus, le jeune homme triomphe de la bête, mais ne s'en sort pas indemne. Encore une fois, il est grièvement blessé, il est de nouveau soigné par la belle Iseult. Je crois qu'à ce moment-là, les scénaristes ont eu une petite panne d'inspiration parce que cet épisode, on l'a déjà lu. Ou alors, il y a un bug dans la matrice. Mais bon. Iseult, en voyant son épée, reconnaît celle qui a tué le Morholt. Elle comprend alors que c'est Tristan qui a tué son oncle et réclame vengeance, mais son père, le roi d'Irlande, ne peut s'en prendre à Tristan qui a sauvé son pays du dragon. Dans un souci d'apaisement, il accepte finalement de pardonner au jeune homme et de donner sa fille en mariage au roi Marc, car c'est là le moyen d'effacer les discordes entre les deux pays. Tristan et Iseult s'embarquent donc pour la Cornouaille. Ouais, c'est un petit peu les conflits politiques de l'époque. Hein, il nous a libérés d'un dragon, mais tu veux pas l'épouser, du coup... épouse son oncle, enfin bon, voilà, les magouilles de l'époque, j'aime bien. Non, c'est vrai, c'est un petit peu les feux de l'amour, mais du Moyen-Âge. Avant le départ, la mère d'Iseult a confié à la servante de la jeune fille un philtre d'amour destiné aux futurs mariés. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Sur le bateau qui les mène vers la Bretagne, Tristan accablé de chaleur... comment ça, Tristan accablé de chaleur? On parle d'un bateau qui les mène vers la Bretagne. La Bretagne, c'est quand même pas la région la plus chaude de France. Oui, mais alors voilà, c'est ça. C'est bien connu, tous les ans, la canicule du mois d'août, elle démarre en Bretagne. Hein? Mais oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Hein? Donc, Tristan, accablé de chaleur, boit par erreur le philtre d'amour, pensant qu'il s'agit de vin. Courtoisement, il en offre une coupe à Iseult, qui boit à son tour. Cette malheureuse méprise va sceller leur destin car dès lors, Tristan et Iseult vont être liés par un amour absolu, une passion irrésistible qui durera toute leur vie. Iseult est une princesse. Elle ne peut donc se soustraire à ses engagements et se doit d'épouser le roi Marc. Cependant, elle est incapable de repousser Tristan. Celui-ci devient donc son amant. Le soir de ses noces, pour dissimuler à son mari qu'elle n'est plus vierge, elle demande à sa servante de profiter de l'obscurité pour prendre sa place dans le lit conjugal. Le roi Marc se laisse duper. Aucun mot sur le taux d'alcoolémie du roi Marc. Enfin bon, on peut quand même se poser des questions. Commence alors pour les deux jeunes gens une double vie où derrière le respect des convenances et des apparences, ils vont vivre leur amour dans la clandestinité. Pour préserver leur secret et leur vie et se protéger l'un l'autre, ils vont devoir déjouer tous les pièges de la cour et toutes les malveillances. Iseult est sans cesse soupçonnée d'infidélité. Elle se défend toujours avec intelligence, tout comme Tristan, mais bien entendu, leur relation finit par être dénoncée et révélée au grand jour. Les deux amoureux sont alors contraints de s'enfuir dans l'obscure forêt du Mont-Roi, refuge impénétrable où ils seront à l'abri des châtiments terribles qu'on leur réserve. Car Tristan risque le bûcher tandis qu'Iseult est menacée d'être livrée aux lépreux. Ah oui, alors à l'époque, ils ne lésinent pas sur la punition, hein. Ah, c'est autre chose que de faire du travail d'intérêt général, hein. Là, quand même, on parle d'être livrée à des lépreux. À l'abri de la forêt, Tristan et Iseult vivent alors une existence rude et sauvage, mais heureuse. Hélas, au bout de 3 ans, le roi Marc, qui n'a jamais cessé de les traquer, finit par les retrouver. Lorsqu'il arrive dans leur campement, il les trouve endormis l'un près de l'autre, mais l'épée de Tristan se trouve entre eux. Marc interprète cela comme un signe de chasteté. De plus, en les voyant ainsi, dans le dénuement le plus total, mais pour autant tellement liés l'un à l'autre, il comprend la profondeur de leur amour et accepte de leur pardonner. Alors, 3 ans plus tôt, il les condamne à des trucs horribles, et là, d'un coup, il les voit endormis au milieu des pâquerettes, et il se dit que non, finalement, ils sont mignons, on va les laisser comme ça. Ah, dis donc, il a vite retourné sa veste, hein. Bon. Encouragé par le roi Arthur, Marc décide donc de leur redonner leur place à la cour. Durant cet exil, le philtre d'amour a cessé de faire son effet car il ne devait agir que 3 ans. Oui, apparemment, les philtres d'amour ont une date limite de consommation ou une date de péremption, donc vérifiez bien sur l'emballage la date de péremption avant de l'utiliser. Tristan et Iseult ne risquent donc plus de mourir s'ils sont physiquement éloignés l'un de l'autre, cependant, ils ne se sont jamais tant aimés. L'amour magique a laissé place à un amour humain bien plus profond. C'est donc un déchirement pour eux de se séparer, mais ils n'ont pas le choix. Il ne leur est plus possible d'enfreindre la morale et la loi comme ils l'ont fait avant leur fuite. Le roi Marc, qui n'est pas complètement idiot, prend quand même la précaution d'éloigner Tristan de la cour et de sa femme. Il le bannit et lui demande d'épouser une autre princesse, Iseult, aux mains blanches, dont le nom et la beauté lui rappelleront Iseult la blonde. Bon alors là, c'est quand même super glauque. Il le bannit pour ne plus qu'il puisse voir la femme qu'il aime et en plus il l'oblige à épouser une autre femme qui porte le même prénom. Non là franchement c'est de la torture psychologique. Tristan obéit mais il ne parvient pas à se remettre de la séparation d'avec celle qu'il aime vraiment. Il sombre dans la mélancolie, incapable d'apaiser le chagrin qui le ronge et qui lui fait dédaigner sa jeune épouse. Pour tromper sa tristesse, il se lance alors dans de multiples batailles. Un jour, il finit par être gravement blessé lors d'un combat. Sur son lit de mort, il réclame Iseult la blonde, la seule qui saura le guérir et apaiser ses souffrances. Il ignore si la belle répondra à son appel. Il convient alors d'un code avec Gouvernail, son tuteur, qui ne l'a jamais quitté et qui est devenu le capitaine de sa flotte. Il devra hisser une voile blanche s'il revient avec Iseult, et une noire s'il revient sans elle. Au bout de plusieurs semaines, le navire revient, arborant une belle voile blanche gonflée par le vent. Iseult la blonde, toujours fidèle, a accouru pour se rendre au chevet de son âme sœur, mais lorsque Tristan demande à sa femme de quelle couleur est la voile, celle-ci, rongée par la jalousie, lui répond que la voile est noire. Tristan, accablé de chagrin, se croyant abandonné par celle qu'il aime, meurt alors de désespoir. Iseult la blonde arrive quelques minutes plus tard. En trouvant Tristan mort, elle écarte brutalement sa rivale en disant « Laisse-moi avec lui, car je l'ai aimé plus que toi. » Et une fois seule avec Tristan, elle l'embrasse et se laisse mourir à son tour. Le roi Marc, touché par un si grand amour, fait alors enterrer Tristan et Iseult côte à côte. On raconte que deux ronces ont poussé sur chacune des tombes et que leurs rameaux se sont si étroitement entrelacés qu'il est impossible de les distinguer l'une de l'autre. Dans certains textes, il s'agit d'un rosier ou d'une vigne ou d'un chèvrefeuille, mais la symbolique est la même. Les amants qui n'ont pu s'aimer et trouver la paix de leur vivant sont réunis pour l'éternité au-delà de la mort. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.